Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Selon notre bonne habitude, nous allons regarder le texte qui sera utilisé en fin de semaine dans les églises. Mais avant d'en faire lecture, je tiens à rappeler que ce texte d'aujourd'hui, idéalement, aurait dû être lu la semaine dernière, car les deux textes, celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, forment une unité. Et cette unité se situe au début du ministère de Jésus, le début de sa vie publique, si vous voulez. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, donc samedi dernier, Jésus se retrouve dans la synagogue, selon son habitude, et il va lire un texte d'Isaïe. Je vais le lire, ce petit texte d'Isaïe, car il est très important. Jésus, donc, prenant le livre d'Isaïe, lit le texte comme suit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, apporter aux opprimés la liberté et proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Et vous vous souvenez, la réaction a été très positive. Et nous poursuivons aujourd'hui, toujours au chapitre 4, la lecture, donc la deuxième partie de cette lecture qui normalement devrait former une unité. C'est en Saint-Luc, évidemment. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus a lu un passage du prophète Isaïe. Il déclara ensuite, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage, et il s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se demandait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Sûrement, vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ta patrie. » Puis, il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. » Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, au pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. En l'entendant, tous dans la synagogue furent remplis de colère. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était bâtie pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Alors, Francine Robert, je ne le répéterai jamais assez, qu'il y a une unité entre le texte de samedi passé et celui d'aujourd'hui. Et samedi passé, c'était... Jésus était très bien accueilli, puis il s'était étonné, c'était remarquable. Alors que, toujours dans ce même texte qui se poursuit maintenant, c'est tout à fait l'inverse.
Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un seul récit, coupé en deux. Et composé de façon très rigoureuse par Luc. En fait, Luc compose ce récit en deux sections. Une première section où Jésus enseigne « Bonne réaction », comme vous nous le rappelez. Une seconde section où Jésus enseigne, réaction de colère. Et donc, cette construction rigoureuse, on va devoir vraiment en tenir compte, d'autant plus, comme vous nous l'avez rappelé, on est au début de la vie publique de Jésus dans l'Évangile de Luc. Or, Luc est un auteur qui travaille bien. On le mentionnait la semaine dernière lorsque j'ai fait un commentaire très rapide des quatre premiers versets d'introduction à son Évangile. Et donc, si un auteur se donne de la peine pour offrir une bonne catéchèse à un dénommé Théophile déjà christianisé, pour les gens qui ignorent qui est Théophile, je les invite à relire les quatre premiers versets du livre de Luc, donc au chapitre 1. Et donc, si Luc se donne la peine de construire un récit comme ça, avec Jésus qui entre en scène dans cet événement de la synagogue de Nazareth, on peut présumer qu'en bon auteur, Luc a mis ici ce qu'il considère être l'essentiel de l'Évangile. Alors, on a deux versants, disons, dans ce récit. Donc, un versant qui serait l'essentiel pour lui de la mission de Jésus. Alors,
appuyé sur le livre d'Isaïe.
Appuyé, oui, que vous nous avez relu tout à l'heure. Mm-hmm. Et on voit même dans la lecture d'aujourd'hui que pour lui, ses paroles s'accomplissent aujourd'hui. Hein, c'est ça qu'il enseigne. Et c'est là-dessus que les gens réagissent bien. Et ensuite, un autre enseignement à partir de l'Ancien Testament encore, à propos d'Élie et Élisée cette fois, et c'est là qu'est la colère. Donc, on est interpellé, je pense, à honorer l'effort d'intelligence, de catéchèse de l'auteur et de l'honorer par un effort de lecture, je dirais, pour bien profiter de ce récit.
C'est ça. Donc, si je comprends bien, là, le ministère de Jésus, sa vie publique, là, est condensé, est résumé, si on peut dire, dans cette introduction. Ce oui. qui était la mode, enfin la mode, chez les écrivains de l'Antiquité, hein, on trouvait dans le début du livre le résumé de tout le livre.
Ou en tout cas les points essentiels, certainement. Ça veut donc dire, si on tient compte de la section lue aujourd'hui qui se termine si mal, que pour Luc, les raisons pour lesquelles on aura rejeté Jésus à la fin de sa vie publique font partie de l'essentiel de l'Évangile, puisque elles sont déjà intégrées dans ce récit-là. Alors, on devra en tenir compte. Si on reprend dans l'ordre le récit que vous nous avez lu aujourd'hui, qui commençait, disons, au verset 21, et si on traduisait littéralement, aujourd'hui, cette écriture s'accomplit à vos oreilles, ce serait ça. Et cet accomplissement, c'est un thème important de Luc, de l'Évangile de Luc. C'est un thème important dans sa manière de comprendre la mission de Jésus. Donc, Jésus a proclamé un Dieu soucieux des pauvres, soucieux des opprimés. Le mot « liberté » était répété deux fois dans le texte d'Isaïe que vous nous avez lu au début de l'émission. Jésus proclame aussi un Dieu qui accueille. C'est comme ça qu'on peut traduire la dernière phrase, une année d'accueil du Seigneur ou une année du Seigneur accueillant, ce qui est plus frappant comme formule. Et il dit aujourd'hui, ça s'accomplit à vos oreilles. Donc, ça s'accomplit quand on l'écoute. C'est pas, vous savez, cette parole-là qui est lue aujourd'hui, ça donne que ça s'accomplit aujourd'hui. C'est cette parole s'accomplit dans l'aujourd'hui de celui qui écoute. C'est encore aujourd'hui, d'une certaine manière. Pour Luc, l'aujourd'hui n'est pas uniquement chronologique, il est théologique. C'est toujours l'aujourd'hui du salut.
On est toujours dans l'aujourd'hui du
Oui, de l'écoute. Dès que cette parole est proclamée pour nous, on peut être dans une parole de libération qui s'accomplit pour nous, comme lecteur ou comme auditeur.
C'est ça. Maintenant, les gens s'étonnent. Hein,
oui.
À un moment donné, je trouve qu'ils ouvrent une porte, là, parce qu'ils se demandaient, hein, c'est les gens qui sont dans la synagogue, là,
oui.
N'est-ce pas là le fils de Joseph? J'ai l'impression qu'il y a une ouverture, là. Une ouverture, et Joseph, c'est comme si Jésus lisait, enfin, Jésus entend ça, Et puis, il fait déjà une interprétation.
Oui, qu'on va voir plus loin. Parce que la question est-il le fils, n'est-il pas le fils de Joseph, n'est pas nécessairement négative. Pas clairement négative dans Luc. Elle est plus clairement négative dans Matthieu et Marc, qui eux aussi ont ce récit de Jésus à Nazareth. Mais je veux juste rappeler qu'ils ont quand même qualifié ce que Jésus a dit de paroles de grâce. Hein, donc, des paroles qui disent la faveur de Dieu. Mm-hmm. C'était au début de la lecture d'aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que ça donne l'impression que leur réaction, n'est-il pas le fils de Joseph?
En tout cas, ça ouvre la
pourrait
porte.
Pourrait être, est-ce qu'on est partagé entre Jésus, tiens, c'est le petit gars du coin, on le connaît, on connaît toute sa famille, et puis là, c'est quelqu'un d'important. Ça dépendrait du ton sur lequel on le dit. La raison pour laquelle je nuance ce que vous avez apporté, c'est que c'est clair dans Matthieu et Marc que leur problème, c'est de mettre ensemble un Jésus qui semble être devenu quelqu'un d'important comme, disons, porte-parole de Dieu, de le mettre ensemble avec le petit Jésus qui a grandi parmi eux. Ça, c'est clair chez Matthieu et Marc. Alors que chez Luc, la difficulté n'est pas là. La difficulté va venir avec le deuxième enseignement de Jésus. Hein? Donc, ça nous oblige à déplacer, puis ça va nous obliger, c'est pour ça que c'est une excellente catéchèse, ça va nous obliger à réfléchir plus loin que le problème des gens qui diraient « oui, mais on l'a connu tout petit ». Vous voyez, ça ne pourrait pas être notre problème. Alors que la catéchèse que Luc construit va mettre en scène une difficulté des gens de Nazareth qui pourrait peut-être être aussi une difficulté des chrétiens. Et à ce titre-là, c'est une belle catéchèse.
Et là, je trouve que Jésus se fait plutôt provocant ou provocateur.
Oui.
Vraiment, je me mets à la place là, des gens qui sont dans la synagogue. Là, c'est dur.
Ça fait basculer le récit. Ça bascule.
Ça vient pas de son cru. Il s'appuie encore sur le Premier Testament.
Là, mais d'abord, sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Bon, tout ce qui s'est passé à Capharnaüm fait de même ici. On dirait qu'il interprète, comme vous le disiez tout à l'heure, la question des gens, n'est-il pas le fils de Joseph? Je rappelle que ça n'est ni le Jésus historique, ni les gens historiques de Nazareth, mais la construction de Luc qui fait ça. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est comme si Luc essaie de nous introduire à une attente des gens qui serait du genre, t'es de chez nous, donc tu devrais faire ici. Ce que tu as fait à Capharnaüm. Tu nous dois bien ça, on est de ta parenté, voyez. Et c'est là qu'il y a, je pense, une sorte d'interpolation que Luc fait. Et il ajoute, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. C'est patrie, hein, et non pas pays, comme on a mis au lectionnaire, le mot patrie de pater, hein, c'est la maison familiale, c'est la maison du père, ça vient de pater, patrice. Ça peut être le clan, ça peut être son coin de pays, son village. Donc, ses proches, ce sont ses proches. Hein. Alors, fais pour tes proches ce que tu as fait pour ceux qui sont loin, loin étant Capharnaüm, qui est pas dans un autre pays, évidemment. Le dicton que Luc va citer à propos des prophètes mal reçus chez eux, n'est pas cité à la manière classique. Le prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa parenté. Ça, c'est ce qu'on a chez Marc, chez Matthieu et même chez Jean au chapitre 4. Alors que Luc a modifié un petit peu le dicton, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-là qui dit ne pas être accueilli vient aussi d'annoncer une année du Seigneur accueillant. Hein, quand je vous disais tout à l'heure, ce qu'on a traduit une année de grâce du Seigneur ou une année de faveur ou des bienfaits, c'est une année du Seigneur accueillant. Alors, Luc joue bien sur cet adjectif assez rare, c'est trois fois seulement dans tout le Nouveau Testament, et sur les trois fois, il y a deux fois ici, hein, proclamer que le Seigneur accueille, et pourtant, celui qui proclame cela n'est pas accueilli. Alors, pourquoi n'est-il pas accueilli? Et là, il prend appui, comme vous disiez, encore une fois sur l'Ancien Testament, en racontant, en évoquant deux passages et deux personnages qui étaient assez connus dans la mémoire.
Des personnages ouais. importants.
Oui, des prophètes du 9e siècle, hein, donc c'était déjà des très anciens. Un prophète d'Israël qui a été envoyé à une veuve étrangère, un autre prophète d'Israël qui a guéri un lépreux étranger. Alors, on voit la répétition qui crée comme un « pattern », un schéma, c'est mieux dit en français, un schéma. Hein? Le prophète pour Israël, non pour l'étranger. Un autre prophète pour Israël, pour l'étranger. Et là, on retrouve le même schéma. C'est pourquoi j'insistais pour parler de la patrie tantôt. Jésus pour Nazareth, chez lui, non pour Capharnaüm. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est le même schéma. Mm-hmm. Finalement, celui qui... manifeste des bienfaits de Dieu, ne le manifeste pas automatiquement pour ceux qui sont très proches de lui, mais le manifeste ou est envoyé manifester le don de Dieu pour des étrangers.
Parce que justement, un don, hein, c'est pas un dû. Hein?
C'est ça.
C'est pas un dû.
Voilà, on pourrait bien dire, c'est pas juste, s'il veut pas guérir des gens à Nazareth, c'est pas là le problème. Et Luc ne s'interroge pas de cette manière-là. C'est de mettre en scène une attitude telle que le don devient impossible parce que ceux qui le recevraient le considèrent comme un dû.
C'est ça.
Vous voyez? Mm-hmm. Alors, Élie aurait dû guérir ou s'occuper de la veuve, des veuves d'Israël. Les gens de Nazareth disent « tu devrais ». Ouais. Bon, ils disent pas ça clairement, mais la construction que Luc fait, finalement, met ça un petit peu en évidence, de sorte que, comme vous voyez, ça rejoint, je pourrais dire, je mettrais un autre étage à mon schéma, j'en avais déjà comme trois étages, Élie, Élisée, Jésus, on pourrait dire Israël, Israël, Nazareth, les étrangers et Capharnaüm. Si je mets un autre étage, c'est l'évangile de Luc lui-même, hein. Luc est un Grec.
Oui, c'est vrai. Hein? C'est bon de oui. Il écrit pour des Grecs.
Pour des Grecs. Et donc, il leur parle du Messie d'Israël et il a constaté, puisqu'il écrit dans les années 80, que finalement, Israël n'a plus accès au salut. Paradoxalement, le salut donné par le Messie d'Israël, il est rendu chez les Grecs. Et Israël s'en est détourné, vous voyez. Alors, c'est toujours le même schéma. Et on voit dans le livre des Actes que ce refus d'Israël...
Ça lui pose question.
Ça lui pose question, hein. C'est
ouais,
ça.
Ouais.
C'est sûr que ça pose question aussi à quelqu'un comme Matthieu. Pour Matthieu, c'est douloureux. Pour Jean aussi, qui sont eux-mêmes des Juifs. Pour Luc, c'est plus comme une question d'ordre de la compréhension de l'histoire du salut et il laisse cette question en suspens, il ne juge pas, mais les gens que ça intéresse pourraient aller lire la finale du livre des Actes et ça finit avec cette question-là et Paul à Rome va dire, ben écoutez, si vous, il est encore en train de prêcher à des Juifs à Rome, Paul, vous voyez, et finalement la majorité ne l'écoute pas, il va dire, bon ben c'est comme ça, si vous voulez refuser cela qui était pour vous, ça va être proposé aux païens qui, eux, l'accepteront. Donc, on a toujours le même schéma. Hein? Ceux à qui ça devrait aller, le don de Dieu, et finalement, ceux à qui ça ira, qui ne sont pas ceux qu'on pense ou ceux qui étaient prévus. Et là, on a la réaction violente.
Mais il est permis aussi de l'appliquer à la communauté chrétienne elle-même, c'est-à-dire aujourd'hui même, nous pouvons avoir cette même attitude que ça nous est dû, quoi. Nous faisons partie d'une communauté chrétienne et puis le Seigneur se doit de s'occuper de nous, etc.
Oui, je pense qu'on pourrait le voir comme ça. Parce qu'à mon avis, si les évangiles sont des catéchèses, on gagne toujours, en tout cas, à interroger le texte sur la face du récit qui serait tournée vers le lecteur. Et le lecteur, nous l'avons dit, n'est pas un juif, mais grec. Et le lecteur de Luc n'est pas de Nazareth. Mm-hmm. Alors, est-ce que ces gens de Nazareth peuvent être un miroir aussi pour le lecteur chrétien?
Voilà.
Vous l'avez dit, on pourrait nous aussi finir par concevoir que la gratuité de Dieu, finalement, elle nous est due et nous l'avons bien gagnée.
Bon,
il y a une autre manière, excusez-moi, Claude, dont on pourrait pervertir la chose, ce serait d'accueillir très positivement la proclamation d'un Dieu qui libère, qui accueille et qui pardonne et tout ça pour nous, mais de trouver que il devrait peut-être pas accueillir n'importe qui, n'importe comment, tout
aussi,
le temps.
Aussi.
Et donc, ouais. Être heureux et le recevoir en gratuité, le don qu'il nous fait, mais en même temps, être un peu réticent ou ambivalent le jour où on s'aperçoit que le même don est fait à des gens pour qui on pense que c'était peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, c'est exactement la réaction du fils aîné dans la parabole dite de l'enfant prodigue. Hein?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et c'est une parabole qui est propre à Luc, qui est très longue et qui met très bien en scène exactement le même schéma. De l'aîné qui dit oh, « Oui, mais tu devrais pas là accueillir celui-là. » Donc, je dirais que là aussi, comme chrétien, on peut être interpellé. Ce qui nous amène à la finale du récit.
Et assez violente, hein, finalement.
Oui, elle est violente et elle est d'autant plus violente qu'elle vient contraster avec la première réaction qui était admirative. Ça nous amène à la finale parce que je continue de penser avec d'autres commentateurs que finalement, si ce récit-là, Luc le construit pour ramasser l'essentiel de la bonne nouvelle, ça inclut donc la réflexion sur pourquoi parfois on la refuse. Or, cette finale qui est violente, c'est une agression, hein, faut en être conscient. Ils le prennent pour le sortir de la ville
Absolument.
Et le jeter en bas. Cette agression physique-là, c'est bien la seule agression dans les quatre évangiles en dehors du récit de la Passion. C'est très peu vraisemblable au niveau historique.
Non, parce que Nazareth n'est pas situé en haut d'une colline.
D'une manière, c'est vrai, hein, vous avez
montagne.
Bien raison, encore moins d'une montagne. Et parce que ce serait étonnant que les gens en soient venus aux mains. Vous voyez, là-dessus, les finales dans Matthieu et Marc sur la visite de Jésus à Nazareth, ça tourne en queue de poisson, mais ça en vient pas aux mains.
C'est
vous
ça.
Voyez. Donc ici, on a clairement, je pense, avec d'autres exégètes, on a clairement une allusion à la Passion. C'est textuellement, il l'amène hors de la ville. On a ça lorsque Jésus va être amené pour être crucifié. Sur une hauteur, ça fait penser au calvaire ou au Golgotha, vous voyez. Déjà, je le rappelais, quand Jésus dit « Vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même », en fait, on va bien lui dire « Sauve-toi toi-même
hein? ». Très vrai.
Ouais. Donc, il y a là une sorte de
d'annonce. Clin,
d'annonce,
en fait.
Oui.
C'est une annonce, carrément, c'est une annonce de sa mort. Quoi.
D'autant plus que c'est quand même curieux la façon dont Jésus s'en tire. Luc n'explique rien. Lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Et là, ça devient parfaitement invraisemblable, puisque les gens le tenaient. C'est si vague, alors que tout le récit est bien détaillé. C'est vu par beaucoup de commentateurs comme une allusion à la résurrection. Lui passe
mort,
au milieu
c'est
d'eux.
Ça, mort et résurrection.
Et
quoi.
Il va son chemin et il continue son chemin. Peut-être que j'aimerais signaler dans les quelques minutes qui nous restent, Claude, que il y a ici une originalité dans ce texte sur la manière de présenter Jésus comme prophète. Et ça, c'est une originalité qu'on retrouve ailleurs dans l'Évangile de Luc. Si je le signale, c'est parce que lorsqu'on se fait demander assez spontanément qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus, ce qui vient, ce sont toujours les titres d'une christologie haute.
C'est ça, fils de Dieu, Messie, etc.
Voilà.
Mais rarement, on va dire prophète.
Ouais,
on dira...
sinon jamais.
C'est ça.
Hein?
Donc, ça, c'est une caractéristique de Luc.
Oui, et ça n'est pas pour Luc un titre arabais. Nous, c'est comme si on disait, ben non, prophète, c'est pas assez pour lui. Il y en a tellement d'autres prophètes. Luc joue la carte du prophète. On le voit ici quand Jésus se compare à des prophètes. Élie-Élisée. Quand Jésus lui-même dit « Aucun prophète n'est bien accueilli chez lui », mais aussi à des endroits plus propres à Luc, hein, au chapitre 13, quand Jésus va dire « Je dois poursuivre ma route vers Jérusalem parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » Et là, ça nous dit bien que c'est même une lecture de la mort de Jésus que Luc propose. La mort de Jésus, c'est le prophète qui a été tué parce que on ne veut pas entendre ce qu'il a à dire. C'est intéressant. Et une dernière citation, c'est dans les récits des disciples d'Emmaüs, qui est aussi propre à Luc. Lorsqu'il rappelle à celui qui les accompagne quelque chose à propos de Jésus, ils vont dire « c'était un prophète puissant en parole et en acte ». Donc, cette figure de prophète, je pense qu'on doit l'exploiter encore aujourd'hui. Je la trouve personnellement, en tout cas, très parlante.
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal, à la technique Alain Primeau, au microphone Claude Julien. Je vous souhaite un bon week-end à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.